Voilà, dernière rencontre de la journée sur cette belle place. Marcel Pagnol, merci à vous tous d'être avec nous. Donc, rencontre entre Nicolas Mathieu et Olivier Adam. Alors, en fait, deux auteurs singuliers, bien sûr, mais que relient de nombreux fils. D'abord, des paysages originels proches, milieux sociaux plutôt modestes, France dite périphérique, banlieue, petit pavillon, région en difficulté économique, loin de la France d'en haut, comme disait l'un, ou des premiers de cordée, comme disait l'autre, ignorés, tenus à l'écart, et pourtant majoritaires dans ce pays. Deux œuvres marquées par cette expérience originelle, l'adolescence, l'envie de fuite, le changement de statut social, une conscience aiguë des écarts sociaux, du poids de l'héritage, économique, mais aussi symbolique, des hiérarchies, que la prétendue égalité des chances au cœur du pacte républicain, au cœur de l'idéal révolutionnaire et des Lumières n'est jamais parvenue à combler. Deux œuvres que l'on pourrait peut-être situer, on en parlera avec les auteurs, on verra s'ils sont d'accord avec ça, mais que moi je situe dans la filiation d'une Annie Ernaux, par exemple, ou peut-être du Didier Ribon de Retour à Reims. Alors, je vais les présenter très vite, parce qu'après, ils vont se présenter eux-mêmes au fur et à mesure de la rencontre. Olivier Adam. Alors, Olivier Adam, d'abord, je vous souhaite un bon anniversaire, puisque vous avez 20 ans aujourd'hui. Vous êtes à l'origine de ce beau festival de Manosque qui a pris une sacrée ampleur.
Ben oui, c'était il y a 20 ans. Voilà, j'étais avec Olivier Chaudançon. Et derrière tout grand homme se cache son aide. et puis on a créé ça ensemble, voilà, jusqu'à. Et c'est devenu. Voilà, on voit toutes les places pleines en même temps, 50 propositions, et avec toujours la même exigence de programmation. Et c'est devenu ce qu'on n'osait même pas rêver quand on est arrivé ici et qu'on faisait les cafés littéraires, la terrasse de la Barbotine et qu'on gênait les gens qui voulaient juste boire un coca tranquille, quoi. Donc voilà.
Alors vous avez écrit de nombreux romans, je ne vais pas tous les citer, mais le premier c'était « Je vais bien, ne t'en fais pas » en 2000. Ça c'est facile à compter parce que c'est un 2000 facile. Il y a eu « Passer l'hiver », recueil de nouvelles dont moi je garde un souvenir vraiment fort. Et à chaque fois je me dis, j'espère qu'un jour Olivier publiera un nouveau recueil de nouvelles. Il y a eu « Falaise », dont j'ai un souvenir très fort aussi, « Des vents contraires ». Il y a eu les lisières, dont on va beaucoup parler certainement cet après-midi. Peine perdue, et puis tout récemment, chanson de la ville silencieuse. Et puis là, pour cette rentrée, alors on va parler aussi de ce livre-là, bien entendu. C'est un livre qui est destiné aux adolescents dans la collection R de Robert Laffont. Ça s'appelle La tête sous l'eau. Et ce n'est pas un coup d'essai en littérature ado-jeune adulte. C'est un genre qui vous intéresse et vous avez écrit beaucoup pour les ados. Il y a eu On ira voir la mer en 2003, La messe anniversaire, là aussi ce roman-là j'en garde un sacré souvenir, Ni vu ni connu, personne ne bouge, et donc là La tête sous l'eau. Et vous, Nicolas, Mathieu, alors il y a moins de livres, hein, mais bon, ça me paraît très très bien parti. Il y a eu Aux animaux la guerre en 2014, qui est paru chez Actes Sud et qui est maintenant disponible dans la collection de poche d'Actes Sud, qui était en fait une sorte de radiographie d'une vallée dans les Vosges. L'actualité du moment où se situe le roman, c'était une usine qui fermait. C'était un roman choral avec de nombreux personnages. Il y avait notamment Martel, qui était un délégué syndical. Rita, très beau personnage d'inspecteur du travail. Bruce, qui était le collègue de Martel et qui avait tendance à arrondir ses fins de mois de manière un peu glauque. Il est videur de boîte de nuit, puis fait un certain nombre de rencontres. Si certains d'entre vous n'ont pas encore lu ce roman, je n'en dis pas plus, mais en tout cas, c'était une sorte, je ne sais pas si vous allez être d'accord là-dessus, mais quand même une forme de tombeau de la classe ouvrière.
En tout cas, c'était un bouquin qui se proposait de raconter la fin d'un monde. Ouais. Moi, j'avais assisté à beaucoup de plans sociaux en 2007-2008, au moment de la crise des subprimes. Et j'avais été très saisi par ce que je voyais. D'une part, parce que oui, j'avais le sentiment d'assister à la chute des derniers pans de la classe ouvrière. Et puis aussi parce qu'à un titre personnel, je m'étais longtemps servi des livres et de l'écriture pour quitter mon milieu, et que à la faveur de ces plans sociaux, en fait, j'ai retrouvé les gens, les corps, les habitudes, les langages du monde, là où j'étais né. Et je me suis dit, c'est ça que je peux raconter.
Et alors là, vous publiez en cette rentrée, et ça ne passe pas inaperçu. Et j'en suis ravi, parce que c'est un roman exceptionnel. Je crois que Olivier est d'accord avec moi, parce qu'il l'a lu. C'est bien, vous vous êtes lus mutuellement, donc ça, c'est parfait. Leurs enfants après eux, qui paraît donc en cette rentrée chez Actes Sud, et qui, d'une certaine manière, est dans le droit fil du roman précédent. Là, alors on va en parler beaucoup plus avant, mais d'un mot, en fait, au départ, il y a un personnage qui s'appelle Anthony, qui a 14 ans en 1992, comme vous d'ailleurs. Et on va le suivre tous les deux étés, en 92, 94, 96, 98, donc jusqu'à ses 20 ans. Ça se passe en Lorraine, dans un village qui s'appelle Ayange, donc qui forcément rappelle Ayange. On est très proche. On va y revenir. Mais d'abord, j'aimerais bien, si vous le permettez, je ne le fais pas souvent, mais je pense que là, c'est indispensable par rapport à cette table ronde et à ce que vous écrivez, c'est de revenir peut-être sur vos paysages originels. Je me souviens, Olivier, que la première fois que je vous avais interviewé pour Télérama, il y a un moment maintenant, c'est vous qui aviez employé cette expression, les paysages originels, que vous empruntiez à Jean Rollin. Donc, pardon ? C'est Olivier, pardon, le frère, Olivier Rollin, pardon. J'aimerais bien qu'on en dise un petit mot. Peut-être on va commencer par vous, Nicolas. Vous êtes né à Épinal et vous avez grandi dans une petite ville, en fait, près d'Épinal. Est-ce que vous pourriez nous décrire rapidement, voilà, ce monde où vous avez grandi, où vous avez passé votre enfance et votre adolescence, pardon.
Épinal, c'est une petite vallée dans les Vosges où il se passait, enfin en tout cas à mon goût, pas grand-chose, et où j'ai grandi, j'ai eu une enfance normale. J'ai grandi dans un milieu populaire qui s'était élevé, qui était devenu de classe moyenne à la faveur des Trente Glorieuses. Et c'est des mondes qui sont tout petits, quoi. Il y a deux bahuts, il y a une ZUP quelque part, des zones pavillonnaires, de supermarchés, voilà, et tout le monde plus ou moins se connaît. Moi, je me souviens surtout de mon adolescence là-bas, en fait, et c'est un peu ce qui est relaté dans le bouquin, c'est-à-dire que très vite, moi, j'ai eu le sentiment qu'il fallait en partir, parce que c'est quand même des lieux aussi qui portent des histoires difficiles. Là, dans ce roman, on décrit un monde un monde finissant. C'est-à-dire que les hauts fourneaux qui ont nourri tout le monde se sont éteints. Et là où moi j'avais grandi, c'était l'industrie du textile, beaucoup, un peu la mine. Et c'est des mondes où les gens font après que ce qui les a rendus riches a disparu. Alors c'était ça, ce qui ne veut pas dire que tout le monde vit dans la misère, que tout le monde crève de faim, loin de là. Mais voilà, c'est des mondes où rôde le souvenir d'un passé glorieux quelque part. Et où les gens sont orphelins de ce passé-là, qui était... De prospérité et puis aussi de légitimité différente. Enfin, la classe ouvrière, il restera toujours des ouvriers, mais à partir du moment où elle finit en tant que classe, il y a aussi la perte d'une identité. Les gens doivent faire aussi avec ça, quoi.
Et pourquoi vous vouliez fuir parce que justement vous aviez une conscience forte de fait que c'était un monde finissant, qui n'avait pas beaucoup de futur, parce que vous vous ennuyiez, parce que quand on lit le livre, quand on voit les personnages, on va en parler plus en détail, Anthony et les autres, on a quand même l'impression qu'ils s'ennuient ferme, en fait, qu'ils ont vraiment le sentiment d'être entre des barbelés, en fait.
Alors, il y a ça, effectivement. Moi, je trouvais que même en scooter, j'en avais vite fait le tour, quoi. Et je me souviens de soirées entières passées dans un square à boire de la mauvaise bière et à se demander ce qu'on allait faire de notre... Où étaient les filles, où était la vie, où était la plage, quoi. On était très loin de tout ça. Et puis, c'est aussi quelque chose de plus intime et de plus cruel. C'est que je voulais partir parce que je voulais pas être comme mes parents, en fait. C'est toujours difficile à dire, mais C'est la triste plaie des transfuges, quoi. On a envie de s'arracher à son monde pour devenir ce qu'on sent qu'on doit être. Et c'est composé de culpabilité, d'ambition, de beaucoup de livres aussi. Tout ça, ça se compose sur un fond de culture, quoi. On lit des choses et puis on se sent de moins en moins chez soi à la maison, quoi. Et on veut partir. Puis un jour, on va réussir à partir et puis on se rendra compte qu'il n'y a nulle part où aller, quoi. C'est les situations de transfuge qui restent dans un entre-deux définitif.
Et parce que déjà, à l'adolescence, vous aviez une conscience forte, en fait, des écarts sociaux aussi
Pas vraiment. Je pense que je les avais intériorisés. C'est-à-dire que moi, en plus, je venais donc d'un milieu relativement modeste, en tout cas, pas pauvre ou un truc comme ça, mais mes parents n'avaient pas le bac, par exemple. Ils gagnaient relativement bien leur vie, mais voilà, je venais de ce monde-là, et puis ils m'ont mis dans des écoles privées. J'ai fait toute ma scolarité, du CEP à la terminale, avec des petits bourges, en fait. Ce qui n'était pas mon cas. Et tandis qu'ils avaient des Nike Air, j'avais des Palladium. Et c'était cruel comme situation. Et les distances sociales, la place qui m'était assignée, je n'en étais pas conscient. Je me disais que si c'était difficile, si j'arrivais pas à... Si je ne faisais pas partie des gens les plus branchés, si je n'étais pas invité dans les teufs où il fallait être, si je n'arrivais pas à conclure avec les filles les plus jolies, je le prenais pour moi. Or, plus tard, en lisant un peu de sociaux, en lisant Annie Ernaux, j'ai compris qu'il y avait derrière ça des mécanismes qui étaient autres, qui étaient des assignations à des places, et qui étaient des... Ben voilà, il y a eu une grande leçon de la sociologie qui m'a montré que ce que je prenais comme étant des faiblesses personnelles, en me disant que j'étais un gros naze, quoi, en fait, ça venait aussi de mon... Juste un truc, moi je ne vivais pas en centre-ville, je vivais à 3 km de là, dans une zone pavillonnaire. Cette distance-là qui est minuscule, qu'on fait à pied en moins d'une heure, c'était tout un monde à franchir en réalité. Et entre les gens qui portaient des barbours et ceux qui portaient des caouets, il y avait un... Bon, les caouets maintenant c'est la mode, mais à l'époque ça ne l'était pas du tout. Il y avait un monde gigantesque que j'ai une fois plus grand appris à déconstruire. Et ce qui m'a permis de ne plus avoir honte et de m'émanciper.
Olivier, vous avez grandi dans l'Essonne, en fait, au sud de Paris, donc en banlieue. Est-ce que, de la même manière que Nicolas, vous pourriez dire un mot justement du souvenir que vous gardez ? Comment vous décririez ce paysage originel ?
Le mot, il est inclus dans la définition même du lieu, c'est périphérie. Voilà. On sait qu'on est à la périphérie d'un centre dont on ne sait pas grand-chose, dont on n'entrevoit rien. Et de toute façon, quand on gagne ce centre, on mesure à quel point on y est périphérique, dans un premier temps. À quel point on n'a pas les codes, puisque, en l'occurrence, moi, j'ai grandi dans la banlieue parisienne. Donc le centre, c'était Paris. Et quatre zones de RER, dont non seulement, de toute façon, on n'avait pas, en tant qu'adolescent, l'argent pour y aller souvent, parce que, mine de rien, le ticket, bouffer à Paris, tout ça, c'était... C'est déjà compliqué. Voilà, donc, j'appellerais ça le sentiment périphérique, qui était à la fois un sentiment personnel, d'être en lisière de quelque chose, et qui était un sentiment collectif, qu'ensuite, évidemment, on a depuis beaucoup écrit là-dessus, la France périphérique, le sentiment périphérique, le sentiment... de ne pas être représenté, d'être laissé de côté, puisqu'on est de côté, de ne pas être représenté politiquement, la fin du communisme, le PS qui a décidé de s'occuper plus de s'occuper que des bobos, et l'autre côté, le FN qui en profite pour ramener dans son escarcelle des gens qui se sentent plus représentés par ailleurs, et qui en plus sont dans ce sentiment de relégation, en pensant que voilà, c'est dans les centres que tout se décide. Or, nous, on est à la périphérie. Ce sentiment aussi d'être majoritaire et laissé pour compte, ou du, en tout cas pas vraiment considéré. Voilà, c'est fait de tout ça. Mais ça se rejoint dans ce mot qui est très beau, en un sens, et qui définit totalement le sentiment qu'on peut avoir à vivre à cet endroit-là, dans ce milieu social-là, c'est d'être à la fois majoritaire et périphérique. Voilà. Donc ça a creusé d'emblée... alors, la conscience de ça, c'est pareil. Moi, je ne l'avais pas parce que la lutte des classes, hein, là où j'ai grandi, c'est une maison, un jardin, une table de ping-pong. Voilà. Donc, quand vous avez le pavillon et la table de ping-pong, vous êtes dans le up de la périphérie. Pareil, mais je viens d'une famille ouvrière qui s'est élevée par le biais de mon père, qui a commencé à travailler à 16 ans et qui a réussi à un moment donné, parce qu'il lisait beaucoup de livres, et puis c'était un protestant, donc un travail, tout ça. Donc, plus la culture ouvrière, il est arrivé à réussir sa vie professionnelle relativement, à nous élever dans de bonnes conditions, etc. Donc, j'avais l'impression d'être en un sens privilégié par rapport à mes copains qui étaient à la cité. Là, je savais ce que c'était... En plus, je voyais très bien la machine scolaire, hein, parce que mes copains de la cité, je les perdais de VU dès la sixième, parce qu'ils allaient dans des classes spécifiques. Après, les copains des lotissements bas de gamme de périphérie, on les perdait après le collège, ils allaient dans les filières techniques. Après, ceux du centre-ville, mais des familles modestes, éventuellement, ils avaient le bac, et puis ils allaient prendre une filière générale qui finissait jamais, ils allaient en DUG de je sais pas quoi, ou alors pour les plus malins, une filière courte, un BTS, un DUT, et puis commencer à bosser à 20 ans. Et puis pour les fils de médecins, les notables, les fils d'ingénieurs et tout ça, qui, comme tu dis dans le livre, connaissent très bien les règles du jeu, puisque c'est eux qui nous ont inventées. Eux, ils savaient que Sciences Po ça existait, que les prépas ça existait, qu'il y avait des bonnes facs, des mauvaises facs, toutes choses qui, même pour moi, étaient plutôt. Dans les endroits pavillonnaires, je ne savais même pas que ça existait. J'avais beau être bon élève, pas une seconde, je me disais que j'avais... c'est même pas que je ne me projetais pas dans la possibilité de faire certaines choses, c'est que je ne savais même pas que ça existait. On n'était pas au courant, quoi. Et parce que ma mère connaissait une femme, une de ses amies qui était vraiment une bourgeoise, qui lui a dit « Tu ne vas quand même pas mettre ton fils en AES à Évry ». Je me suis retrouvé à Dauphine. C'est ma mère qui a amené le dossier, parce que moi, j'en avais strictement rien à faire. Hein. Et je me suis retrouvé à Paris-Dauphine, dans le 16e arrondissement. Et j'ai fait mes études là-bas. Et là, j'ai appris que je venais d'un endroit spécifique. Parce que tout le monde venait de Neuilly, du 16e, du Vésinet, de Chatou. Ils avaient tous des cartes bleues. Ils n'allaient pas déjeuner au Crous. Hein. Ils allaient au bistrot, ils réglaient avec une carte des plats à 20 euros. Enfin, ce n'était pas des euros à l'époque, mais ils allaient tous au ski à Courchevel. Et quand je leur disais que je allais reprendre le RER et que j'allais faire 4 zones, ils me regardaient. Et pour eux, Juvisy ou Brunois, donc une ville un peu dure, la Grande Borne ou Draveil, une petite ville un peu tranquille de banlieue, c'était la même chose. La cité ou les lotissements, c'était la même chose, quoi. Voilà. Et voilà. Et au même moment, à la fac, j'ai lu Bourdieu. À la bibliothèque municipale, j'ai emprunté Annie Arnaud. Et pareil, j'ai pu mettre des mots et des sur des choses que je ressentais dans mon incapacité à me mouvoir auprès de ces gens-là, dans la ville de Paris, des endroits où je ne pouvais pas entrer, où j'avais honte, où je me sentais plouc, etc. Et aussi, à l'envers, quand je rentrais à la maison, parce que, évidemment, que j'avais le bac, et évidemment que je lisais beaucoup, et évidemment que, en plus, j'avais la prétention de vouloir être auteur. Donc, évidemment, mes parents me regardaient, mais t'as le boulard, mon ami, quoi. Et puis, c'est pas pour nous, et puis, pour qui tu te prends, et tout ça. Et puis voilà quoi. Et puis après ça continue parce que la publication s'installait à Paris et tout ça. Et quand on revient, on est un traître. On est passé de l'autre côté. On est passé de l'autre côté et en même temps on trimballe ces vieux complexes dans le milieu qui est censé nous accueillir. Je parle de la bourgeoisie intellectuelle dans laquelle on gravite quand nécessairement on publie des livres et que on commence à être lu, avoir des éditeurs, etc. etc.
Et alors tous les deux, finalement, vous le dites très bien dans la présentation de votre livre, Nicolas, vous dites tous les deux que, vous venez de le redire d'ailleurs l'un et l'autre, que c'est un monde que vous avez voulu fuir, comme le font vos personnages. Et vous dites, et pourtant ce monde, je ne peux parler que de lui. Alors j'aimerais bien qu'on explique ça. Et c'est vrai que pour l'instant, vos deux livres parlent de ce monde-là.
Oui, alors c'est... c'est même pas qu'on parle, que je parle que de lui, c'est que je parle pour lui. C'est-à-dire que... C'est des sentiments tellement compliqués. J'ai eu honte d'en être issu. J'ai eu honte des couacs sociaux que ça provoque quand on est voulu dans un milieu qui est plus élevé. Et puis en même temps, ça me met en rage le mépris dont ils sont l'objet. Et donc à partir de cette colère-là, de cette incompréhension-là, par exemple, un truc tout bête, quoi, le vote du FN qui est toujours pris dans un prisme moral. C'est bien, c'est mal. Ou alors dans un prisme intellectuel. Vous êtes trop bête, donc vous ne comprenez pas. Nous, qui y avons grandi, on voit bien que c'est pas comme ça qu'on va expliquer les choses. Et puis c'est surtout pas comme ça qu'on va inverser la situation. Et donc là, outre la colère, il nous prend une violente envie de parler pour, c'est-à-dire pas à destination d'eux, mais à la place d'eux. Vous voyez, c'est comme Faulkner qui parle pour les imbéciles. Dans le bruit et la fureur, on a envie de faire vivre ces mondes-là et de les faire comprendre, puisque eux ne peuvent pas le faire d'eux-mêmes, quelque part.
Moi, je dirais que ça s'est fait un peu en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé à écrire, j'avais lu Carver, moi, et je lisais beaucoup de littérature américaine, et j'étais autorisé. Je me sentais autorisé, c'est-à-dire qu'en littérature française, c'était moins le cas, mais parler... du mec au chômage, du barman, de la caissière de supermarché, du pompiste, de machin. Ça ne me posait aucun problème. Et ça m'a beaucoup rassuré, ça m'a autorisé à écrire, parce que moi, c'était tout ce que je connaissais. Je ne voyais pas comment je pouvais écrire sur les hautes sphères, je ne les connaissais pas. Donc, on arrive avec des premiers romans fondés sur notre vécu, principalement, sur les territoires où on a grandi, sur la vie de nos amis, nos copains, nos oncles, nos tantes. Voilà, tous ces gens auprès de qui on a grandi. Donc je ne me posais même pas la question d'écrire sur autre chose. C'était ça que je portais en moi, c'était là-dessus que je devais écrire. Et ça s'est même affermi parce que j'ai eu la chance assez vite que certains de mes livres soient remarqués et qu'ils étaient, même quand c'était de manière positive, mais ils étaient particularisés par leur objet. Ce que j'avais du mal à comprendre parce que je me disais, mais attends, alors évidemment, chaque livre a un peu l'ambition de dresser aussi le portrait du pays, de l'époque. Donc je parle de la France majoritaire, donc je ne vois pas comment ça peut être particulier comme travail, par définition, parce que je parle du plus grand nombre, mais il me semble que parler du plus grand nombre pour donner une idée du pays, c'est mathématiquement assez inattaquable. Et voilà, il y avait le roman social, machin, tout ça. Donc ça a un peu affermi même ma volonté de continuer à travailler sur ce défaut de représentation de la France majoritaire. On parlait de représentation politique, mais aussi de représentation dans la littérature, au cinéma, dans la fiction, d'une manière générale. Et puis ensuite, il y a eu, avec les lisières, l'interrogation sur ma propre place et ma propre légitimité à encore parler de ces mondes-là, de cet endroit-là de la France, quand objectivement... je ne lui appartenais plus, et quand j'y retournais, on me le faisait bien sentir. Et il y avait cette espèce de mauvaise conscience et de culpabilité à se dire « Ah, t'es tranquille à Saint-Malo, dans ta maison à 50 mètres de la plage, on sait que tu vends un peu des livres, que t'as des films au cinéma, donc on sait que tu gagnes bien ta vie. » Donc ce truc, ce procès qu'on fait toujours, ce qu'on appelait la gauche caviar, les bobos, enfin ce truc, d'où tu crois encore parler du peuple, des classes moyennes, des classes populaires. Mais je trouvais que c'était une question intéressante et pas si légitime que ça. Je le pense encore. Le prochain livre que je viens de terminer, là, continue à s'interroger là-dessus. Est-ce que, d'ailleurs, symptomatiquement, le dernier livre que j'ai fait sur ces zones de la société-là, il est à la troisième personne. C'était peine perdue. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire de l'intérieur. J'ai ensuite interrogé la position que j'avais et ma légitimité à continuer à écrire de l'intérieur. Et le fait que j'étais dans l'entre-deux, la mélancolie du transfuge, et dans cet entre-deux difficile à résoudre. Et à un moment donné, je suis devenu un témoin et un scribe qui écrit sur et dont, en dépit de la vie qu'il mène, qui force le regard. Et ça s'astreint à ne pas perdre de vue cet endroit-là et se donne, c'est un grand mot, mais une forme de mission. Et le dernier livre que j'ai écrit dans des conditions un peu particulières, mais qui s'appelle « Chanson de la ville silencieuse », c'est un livre bourgeois, c'est mon premier roman bourgeois, et je me sentais très toujours d'ailleurs, je me sentais très coupable d'avoir fait ça, d'avoir écrit un roman bourgeois sur une fille de chanteur plein aux as et tout ça, quand bien même elle-même était totalement abandonnée par son père et vivait en Ardèche au milieu des gens du village et n'avait pas une vie luxueuse du tout. Mais malgré tout, je me disais, t'as écrit un roman, tu t'es salement bourgeoisé, mon salaud, me suis-je dit.
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on quitte ces milieux-là, il a dit le mot, hein, trahison. On se sent traître à son sang, quoi. Et il en résulte un sentiment de dette qui est imprescriptible. Et du coup, de culpabilité, de volonté de parler, justement, de ces mondes-là, quand bien même on les a quittés.
Comme une sorte de mission, en fait.
Il y a un peu de ça, ouais.
Un peu de ça, ouais. Alors, on va rentrer...
Juste, on parlait des paysages originels. Le principe d'Olivier Rollin, c'était dans ce livre, il expliquait que, quoi qu'ils fassent, les écrivains, même quand ils situaient leurs intrigues à l'autre bout du monde, en apparence, ça avait l'air d'être des déplacements, mais que finalement, la géographie initiale était toujours la même. Voilà. Dans mon cas, c'est la notion de périphérie, de bordure. Je peux faire un livre qui se passe au Japon, c'est une bordure du monde. Je peux faire un livre qui se passe en bord de mer, par définition, sur des littoraux, ce sont des bordures. Évidemment, beaucoup de livres qui traitent de la périphérie au sens périurbaine, ce sont des bordures. Et donc, il y a la notion de mission, mais aussi la notion de toute façon, c'est fondateur de notre géographie mentale et de notre imaginaire, je pense, voilà, structurellement.
Alors on va rentrer un peu dans chacun des livres. Leurs enfants après eux, Nicolas. Donc je disais tout à l'heure qu'au centre, en tous les cas au départ, il y a Anthony. Donc on va suivre pendant 4 étés, 92, 94, 96, 98, donc entre 14 et 20 ans. C'est donc au départ un adolescent, après un jeune adulte, qu'on voit pris au piège en fait d'une vie qu'il juge sans... J'espère qu'il ne s'est rien passé de grave là, derrière. Pris au piège d'une vie sans avenir dans la ville de Heian, je disais tout à l'heure, qui est dominée par l'ombre d'un haut fourneau éteint. Donc on retrouve beaucoup de ce que vous avez raconté. Et il appartient à une famille qui a été en fait cassée par le licenciement du père. C'est-à-dire que le père ne se remet jamais, en fait, de ce moment-là où il va perdre son statut, où il est licencié de l'usine dans laquelle il travaillait. Vous avez choisi, en fait, la forme du roman choral, on a l'habitude de dire comme ça, parce qu'à partir d'Anthony, il y a tout un tas de personnages qui interviennent, et ce n'est pas un jeu d'Anthony qui raconte, les personnages, chacun... C'est écrit en général à la troisième personne du singulier, et chaque personnage a sa voix et intervient comme dans un roman choral, donc il y a le père, il y a la mère... Il y a Steph, une fille qu'il essaye constamment de séduire et qui lui échappe en permanence. Il y a Clem, l'ami de Steph. Il y a Hassine, qui est un très beau personnage, qui lui tente de s'en sortir en fait en trafiquant. Donc c'est une forme de portrait hyper réaliste en fait de cette région. Et c'est là où je voulais en venir. C'est pas du tout un roman... mélancolique ou triste ou dépressif, même si ce qui est raconté est sombre en fait, hein, bien sûr, parce que c'est porté par l'énergie de ces personnages adolescents, par la rage de vivre de ces adolescents, par le désir sexuel même, je dirais, qui est très présent dans le livre et qui porte. Et je voulais en venir là parce que finalement c'est aussi un roman sur l'adolescence.
Oui, En fait, les horizons semblent bouchés. On sent bien que c'est dans une petite vallée qui est prise dans quatre étés. Donc, au-delà même de la géographie du lieu, il y a aussi le climat. Ils sont enlisés dans quelque chose. Mais face à ça, c'est comme un peu les personnages dans les tragédies, face à cette fatalité-là, face au destin. Et eux, ils sont confrontés à leur destin social, qui est celui d'un monde finissant et d'un héritage qui est très très lourd à porter. Ils vont quand même vouloir jouer leur partition à eux, ils vont vouloir arracher leur part du gâteau. Et ce sont des ados, donc c'est le moment le plus aigu du désir, du vouloir, des ambitions, de la construction de soi. S'ils sont enfermés dans une boîte, ils tapent comme des sourds contre les parois de cette boîte pour s'échapper, quoi. Et effectivement, il y a une volonté d'évasion, d'échapper belle et de vitesse aussi. Ils ont très faim malgré tout.
Est-ce que vous avez travaillé l'écriture là-dessus? Parce que quand on le lit, on est très frappé par ça. C'est-à-dire qu'il y a une énergie désespérée dans et qui porte l'écriture. Je ne sais pas comment vous avez travaillé, ou c'est peut-être venu naturellement par le fait même que vous racontiez cette histoire, mais c'est ce qui fait d'ailleurs, je ne vais pas vous faire rougir, mais c'est ce qui fait la grande beauté en fait de ce texte.
Alors, je le travaille, oui, évidemment, mais c'est toujours compliqué quand on me dit « Ah, ça c'est bien, comment vous faites ?» parce que je ne suis pas du tout dans la maîtrise. C'est-à-dire, je ne suis pas un maître qui a la maîtrise de tous ses moyens et qui dirait pour obtenir tel résultat, je vais employer tel dispositif, pour obtenir tel effet, je vais employer tel truc. C'est une volonté déjà de... Je fais exister des personnages. J'essaye de les faire exister de la manière la plus réelle possible. Et une fois qu'ils sont là, qu'ils sont campés, qu'ils prennent en densité, je leur emboîte le pas, quoi. Et il y a une chose, il y a un mot vraiment que pendant toute l'écriture qui était mon leitmotiv, c'est restitution. C'est-à-dire que je pensais jamais à tel film ou tel livre. J'étais très 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 concentré sur les effets que produise la vie, sur ce que j'y vois, ce que j'y entends, ce que j'y ressens. Et il fallait trouver des équivalences pour produire les mêmes effets, quoi. Et le travail sur la langue, il a été celui-là. Donc le travail sur l'adolescence, mais aussi sur l'été, sur la géographie, sur l'école, sur tout, quoi. C'était vraiment comment ça marche, être au plus près, être concentré et trouver non seulement les phrases qui puissent l'expliquer, mais aussi qui, dans leur mouvement même, le fassent ressentir.
Alors incontestablement, vous avez l'œil, vous avez un œil extrêmement aigu. Ce qui rend le texte aussi, même si par moments on rit, qui rend le texte déchirant, c'est que c'est l'adolescence, c'est l'énergie d'adolescence, mais c'est la cruauté aussi, en fait, de cette période. Bien sûr, la cruauté de ce qu'ils vivent, mais une cruauté propre à l'adolescence aussi. Et il y a une expression que vous employez qui m'a beaucoup touché dans le livre. Page 32, vous dites « Il est jeune à en crever ».
Oui, c'est ça. Je ne laisserai jamais dire que l'adolescence est le plus bel âge de la vie.
Vous n'êtes pas le premier.
C'est un moment quand même qui est cruel. Déjà, c'est les années lycée, on sait bien comment c'est terrible ces moments-là entre les gens. Et puis, c'est un roman d'apprentissage quand même, ce livre, comme toujours les livres sur l'adolescence. Un roman noir d'apprentissage, on pourrait dire. Donc qu'est-ce que c'est qu'un roman d'apprentissage? C'est un roman du déciment. C'est les illusions qui tombent une à une. Et c'est ça aussi qui est cruel dans cet âge-là. Et puis, le souvenir que moi j'ai de mon adolescence, c'est un sentiment d'éclatement qui ne peut pas aboutir. C'est-à-dire que tout est trop étroit. Et c'est ça aussi, être jeune à en crever. C'est que quand est-ce que ça aboutit? Tout manque. La vitesse, les filles, l'argent, les possibilités. Enfin, j'avais l'impression la vie est si petite, quoi, et le désir si vaste, quoi, à ces moments-là. Et ouais, voilà, c'est de ça dont ça témoigne. Pendant tout le roman, le roman est scandé un peu comme dans les films de Bruno Dumont, par des allers-retours en cyclomoteur à fond de train dans la ville. Et c'est ça qu'ils cherchent, c'est leur propre limite, c'est la limite à partir de laquelle il cherche à se faire mal, à éclater, justement. Et c'est, je trouve que... peut-être que l'âge adulte, c'est celui où on trouve son contour, et justement ses limites, avec ce que ça a d'apaisant, et puis aussi ce que ça comporte de renoncement. Mais l'adolescence, c'est celui où on va essayer de pousser plus loin le curseur.
Alors, la tête sous l'eau... Olivier, d'un mot pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, et vous avez de la chance parce que c'est un très beau livre, donc c'est mieux de ne pas l'avoir encore lu, qui met en scène Antoine. Alors Antoine, c'est souvent un prénom que vous utilisez. Antoine, c'est souvent... souvent vous utilisez les Paul quand c'est un peu votre double.
Ouais.
Et puis les Antoine, c'est un jour, je crois que vous les avez, si je me souviens bien, un jour vous les aviez décrits en disant c'est un peu les petits frères borderline, les Antoine.
Ouais, c'est ça. C'est
un peu... Alors donc voilà un Antoine qui a une quinzaine d'années. Sa famille a quitté Paris pour la Bretagne. En fait, c'est le père qui a décidé, qui a eu envie contre en fait le désir en particulier de ses enfants et en particulier de sa fille aînée, Léa, donc la sœur d'Antoine, qui vit très très mal. Elle a été obligée de quitter là où elle était. En région parisienne et ses amis et tout ça. Et bientôt, Léa disparaît. Alors ça, c'est un thème qui est la disparition qui est vraiment... qui traverse en fait toute votre œuvre. La famille, bien sûr, est pulvérisée parce qu'il y a une enquête et une enquête qui n'aboutit pas. Donc les jours passent et voilà. Et la mère, en fait, quitte le foyer. Elle part avec un autre homme. Le père, on va parler des pères tout à l'heure, parce que je crois que c'est un thème intéressant. Le père surnage, disons. Et puis, soudainement, Léa est retrouvée. Elle est blessée au sens intérieur, mais elle a été blessée aussi, elle est brisée. J'en dis pas plus, ce serait dommage, je ne veux pas tout dévoiler. Et la famille va en fait tenter de se recomposer en essayant d'aider Léa à se reconstruire. Et c'est bien difficile, parce que Léa, elle cache quelque chose, il y a un mystère qui tend aussi l'intrigue du livre, qui, je le rappelle, est destiné aux adolescents, en tous les cas en premier, parce que je pense que c'est un livre, en fait, transgénérationnel, et peut être lu aussi par des adultes. Alors, j'en viens aussi avec vous à cette question de l'adolescence, parce que ça, c'est intéressant. D'abord, vous avez quand même, il me semble, et pour vous avoir lu depuis le début, un lien quand même aussi très fort avec l'adolescence. Et là, vous utilisez en plus un jeu... donc vous vous mettez dans la peau d'un adolescent de 15 ans. C'est une fois de plus formidablement réussi. C'est vraiment juste. Parce qu'il y a c'est pas si facile. Il y a des romans pour ados, moi qui suis un peu la littérature pour ados et qui l'aime beaucoup. C'est pas si facile en fait pour un adulte de créer un jeu, de créer une voix d'adolescent. Parfois, ça sonne un peu faux. Là, ça sonne très juste. Donc, j'aimerais bien que vous me parliez de ça, de votre rapport à l'adolescence et de la manière dont vous avez composé cette voix d'Antoine.
Y a plusieurs choses. C'est que d'abord, l'adolescence, je sais pas, je suis d'une génération où on est vachement moins, enfin moi en tout cas, moins adulte que nos pères en particulier, mais nos mères aussi, au même âge, quoi. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a une part d'adolescence, d'adolescents border, complexés, hargneux, paranoïaques, mal dans sa peau, qui subsiste toujours en moi. Il ne faut pas grand-chose pour la faire ressurgir. Donc je me sens très connecté toujours à cet âge-là, à la texture des sentiments et de l'état d'esprit, et même de... du sentiment qu'on a de sa place dans le monde, dans une assemblée, tout ça, ça me semble pas si éloigné que ça, même si j'ai 44 ans, et donc là, ça commence à dater quand même. Et puis après, littérairement, Nicolas l'a dit, tout roman mettant en scène ou écrit du point de vue d'adolescent est un roman d'apprentissage, et le roman d'apprentissage, c'est nécessairement... passionnant. C'est un âge qui est passionnant dans ses extrémités, dans son immaturité, dans son intensité, dans cette manière qu'on a de se cogner à tout à la fois, de tout découvrir en même temps. Ce moment aussi, on est dessillé quant à ce que sont vraiment nos parents et à ce que sont les adultes et à ce, que le, et à ce qu'est vraiment le monde. C'est à ce moment où on comprend que les dés sont pipés, par exemple. On parlait de la prise de conscience des classes sociales, etc. Mais dans plein d'autres domaines. Qu'il y a tellement de, voilà, de culture du secret, du compromis et de choses qui, en plus, à cet âge-là, nous paraissent absolument dégueulasses. Quoi. Parce qu'à ce moment-là, on a une forme d'intransigeance... quasiment. Et donc ça fait des personnages et des sentiments et des textures de phrases qui sont intéressantes. Après, à un moment donné, je m'éloigne quand même de ma propre adolescence et c'est vrai que le fait d'avoir au moins une et bientôt deux adolescentes et adolescents sous mon toit et de les voir évoluer auprès de ses copines, de ses copains, de ce qu'elle regarde, de ce qu'elle écoute, me reconnecte aussi à ça. Et alors ça permet notamment, on parlait de la justesse, c'est vrai que les premiers livres que j'ai écrits à l'école des loisirs, disons que j'écrivais de mémoire sur mon adolescence, et puis c'était pas si loin que ça, donc en gros, j'actualisais un peu. Là j'actualise en observant. C'est un peu comme tout à l'heure, j'expliquais écrire à la troisième personne sur en témoin ou écrire de l'intérieur. J'écris moins de l'intérieur sur l'adolescence d'aujourd'hui, puisque c'est des livres qui sont écrits. C'est le principe, hein. Le principe d'un livre dit pour ados, c'est que précisément la question du destinataire est mal posée. C'est que c'est un livre à hauteur d'adolescence ou du point de vue d'un adolescent. Après, il faut donner un bémol là-dedans, à mon avis, c'est que sans quoi des livres dont les héros sont des adolescents ne seraient pas de la littérature non adolescente, si je peux dire. C'est que la littérature dite... aujourd'hui, on dit young adult ou jeune adulte. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça fait plus je ne sais pas quoi, d'ailleurs. Sûrement parce qu'on se sent tous encore des jeunes adultes, donc ça peut excéder la cible première.
Ça tient beaucoup au marketing.
Mais c'est devenu un genre constitué, malgré tout, qui a une forme d'histoire, qui a des courants, qui a des œuvres un peu tutélaires, etc. Et il y a quand même... Et comme tout genre, du coup... Quand je travaille l'adolescence pour un roman de ce genre-là, contrairement à si je travaille l'adolescence dans un roman non jeune adulte, je vais me frotter au genre. C'est-à-dire je vais le prendre en compte, je vais m'amuser à le détourner, je vais m'amuser à le pousser dans ses retranchements, mais je reste quand même dans les clous du genre, et notamment, c'est vrai, pour la fiction ado-télé, pour les séries ado, enfin ce qu'on appelait les teen movies, les teen series et les teen novels, c'est que les ados sont pas seulement les protagonistes, mais que c'est les héros. C'est que ils prennent en charge là dans ce livre-là, quand Léa revient après avoir été séquestrée, maltraitée, violentée, et qu'elle laisse tout le monde au silence, son frère Antoine qui tient la narration. Et sa copine Chloé mène l'enquête, quoi. Il y a un côté, Antoine et Chloé mènent l'enquête. En rigolant dans une émission de radio, Alix Vizorek m'a dit « Ah oui, il y a un côté Club des Cinq ». J'ai répondu « Oui, Club des Cinq, mais chez Marc Dutroux ». Voilà. Mais il y a quand même ce côté-là. Il faut quand même bien se dire qu'il y a quelque chose d'un genre avec, d'un jeu avec le genre, et qui est comme tout, à chaque fois qu'on se... Bon, moi, je fais pas du roman noir comme toi, tu as pu faire avant, mais dans Peine perdue, je me suis amusé un petit peu à approcher aussi ce genre-là, quoi. Et donc, c'est aussi des défis d'écriture qui doivent pas passer au premier plan, parce que le premier plan, c'est ce qu'on raconte, les personnages, les sentiments et tout ça, mais qui font partie du processus, quoi.
Alors, j'avais prévu 2853 questions et je vois le temps qui passe et je m'aperçois que je suis obligé d'en sauter certaines. Donc, j'en viens à la question du rapport au père qui m'intéresse beaucoup et qui est forte dans vos livres à tous les deux. Nicolas, en fait, il m'a semblé, alors peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais il m'a semblé que vous mettiez en scène des pères impuissants. Impuissants au sens qu'ils ne savent plus quoi dire, en fait. À leur fils. D'abord, ils ont honte, en fait, d'avoir été dégradés, parce que licenciés, etc. Par exemple, quand Anthony, c'est au début du livre, regarde son père, il dit « C'était un visage d'homme fatigué qui buvait trop et dormait mal. » Et il y a Hassine, Donc son père, lui, donc, il est d'origine marocaine, si je me souviens bien. Et il parle de ses pères qui restaient suspendus entre deux langues, deux rives, mal payés, peu considérés, déracinés, sans héritage à transmettre. Et ça m'intéresse beaucoup.
Oui, c'est des caractéristiques de pas mal de... Longtemps, quand même, le régime classique, d'ailleurs du cinéma comme de nos vies, c'était l'héritage. C'est-à-dire que d'une génération à l'autre, on transmettait des valeurs, on donnait des leçons de vie, et puis ça ensemençait petit à petit, comme ça. Il y avait une transmission, quoi. Et puis, pour diverses raisons, ça s'est arrêté. S'agissant de l'héritage ouvrier, pour une bonne raison, c'est qu'il n'y a plus de classe ouvrière et que les gamins qui ont eu à apporter ça n'en ont pas voulu. Qu'ils se sont dit, tout ce passé dont vous me parlez, c'est des conneries, je n'en veux pas, je veux... Et l'émancipation l'a emporté de beaucoup sur la transmission. Donc je ne sais pas si c'est des pères qui sont impuissants en général, mais en tout cas qui sont impuissants à transmettre un héritage. Soit parce que leur héritage est mort, comme celui de la classe ouvrière, soit parce que c'est un héritage trop compliqué, celui de l'immigration, quoi, pour le dire vite. Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est que nous sommes devenus des mondes de jeunes, en fait. C'est-à-dire que il ne suffit plus d'être vieux pour être sage. Ceux qui savent aujourd'hui, ce sont les plus jeunes. Par exemple, je me suis beaucoup posé de questions... au moment de l'écrire, sur est-ce qu'il fallait le situer de nos jours dans les années 90. Puis je me suis rendu compte que je ne savais pas comment ça marchait aujourd'hui, quoi. Et je l'ai situé dans les années 90 aussi pour des raisons de commodité. Donc je ne crois pas que ce soit des pères impuissants. Je crois même en fait qu'ils sont décrits comme des sortes de héros mythologiques, mais qui ont perdu leur pouvoir quelque part, qui sont déplacés dans un monde où ils ne peuvent plus rien. Alors oui, effectivement, il y a une forme d'impuissance, mais ils sont quand même bigger than life. Le truc, c'est que leurs enfants ne s'intéressent plus à ce qu'ils ont à dire.
Oui. voilà. Olivier, d'une manière générale, et d'ailleurs, on en parlait avec Nicolas, je ne sais plus quand, au téléphone récemment. Vos personnages se définissent souvent dans leur rapport au père, ou bien, quand ils sont devenus pères, dans leur rapport à leurs enfants en tant que pères. Là, dans La tête sous l'eau, après on y allergira, mais puisqu'on parle de La tête sous l'eau aujourd'hui, qui vient de sortir, le père, je disais tout à l'heure, en fait, il est journaliste, mais c'est plutôt un journaliste médiocre, quand même, sans grande ambition. Il a déménagé en Bretagne, il a pris un boulot vraiment...
Oui, c'est-à-dire qu'il travaillait dans le journal de l'arrondissement, du 18e arrondissement,
oui,
et puis là, il est quand même une bonne promotion, parce qu'il est journaliste au pays malouin, en fait. Pour ceux qui connaissent Saint-Malo, c'est le journal local, enfin, je sais, il y en a sûrement ici, du même genre, où vraiment on raconte que les nouvelles ultra locales, quoi. Voilà,
c'est ça. Et où on est quand même très contrôlé dans ce qu'on dit et tout.
Ah, donc, il vaut mieux pas dire du mal de monsieur le maire.
C'est ça. Donc la liberté journalistique, bon, voilà, moi j'ai lu ça, évidemment, ça m'a fait assez frémir. Et alors ce personnage, je disais tout à l'heure, il surnage et bon, sa femme s'en va, il a des problèmes monstrueux dans sa famille et il est un peu défaillant quand même. Enfin, il m'a semblé, moi.
Oui. Bah disons qu'il y a des livres que j'écris en tant que fils, et donc, si je puis dire, et donc du coup, la figure paternelle, elle renvoie à une figure du père qui n'est pas nécessairement intime, mais qui est collective, quoi, et donc, et qui est aussi sociale, et qui est des pères définis par... une morale de la dureté, de la stoïcité, pas d'épanchement, pas de gestes tendres, et un empêchement d'ailleurs. Un empêchement à de toute façon être un père comme le sont les jeunes pères d'aujourd'hui. Des gestes impensables, une tendresse, ou une, des, voilà, qui, pour, et une espèce de... de morale aussi d'éducation fondée sur l'autorité et parfois la brutalité et en mots, voire en gestes. Et on pensait que c'est une bonne école qu'on peut, que les enfants vont s'évanouir, lapsus révélateur, s'épanouir en ayant face à eux des blocs de glace extrêmement froids, brutaux, durs. Voilà. Et donc, moi, j'en ai conçu, je le sais, un rapport assez névrotique aux hommes de la génération de nos pères. Voilà. C'est une espèce de... C'est terrible pour moi. C'est vraiment... Je me sens en danger une espèce de peur, quoi, permanente. Et puis, il y a des livres que j'écris de mon propre point de vue de père et de mon expérience de la paternité. C'est vrai que la paternité dans la littérature... Du côté, oui, elle est souvent conçue dans son des grands questionnements. Est-ce que je veux être père? Veux-je m'engager ainsi? Ou alors dans son manquement. On a beaucoup de livres sur un mec qui réalise qu'en fait son fils a 15 ans et qu'il le connaît à peine et donc il l'emmène faire de la pêche pendant un week-end et puis là ils vont essayer de rattraper tout ce temps perdu. Mais très rarement sur une expérience de la paternité. Quotidienne, avec ses hauts et ses bas, mais comme une expérience assumée et d'ailleurs majeure de la vie. Et donc, si c'est une expérience majeure de la vie, elle est nécessairement intéressante à travailler en littérature. Alors après, on parlait tout à l'heure de Paul, hein, c'est-à-dire Paul Steiner, Paul Anderen, bientôt Paul Lerner, Paul ici aussi. Dans ce cas-là, c'est un père dans lequel je me projette, moi, avec l'immaturité dont je parlais tout à l'heure, le côté un peu éternel adolescent, mais aussi donc vite dépassé, avec des failles, avec ce truc de dire, bon, voilà, on parle beaucoup avec nos enfants, on déverse des monceaux de tendresse avec eux, et en même temps, à un certain âge, ils ne sont pas bêtes. Hein, ma fille, elle voit bien ce que j'écris, elle voit bien ce que je bois, elle voit bien dans quel état je suis, en général, et elle voit bien que... Et puis elle entend ce qu'on dit de moi autour de moi, mais je ne parle même pas des médias et tout ça, hein, je parle des amis, des connaissances, de mes parents et tout ça. Et donc elle voit bien que il y a sûrement un socle de dialogue, de tendresse et tout ça, mais que putain, la personne sur qui elle est censée se reposer, disons, le sable est meuble, hein, la terre est friable, hein, c'est un socle vraiment pas terrible, quoi, mal foutu. Et donc voilà, lui c'est un père de cette galerie-là, il picole un peu trop, mais comme tout le monde, quoi. Hein. Non, parce que hier, j'ai présenté le livre et Maya Michelon dit donc le père alcoolique. Je dis oh, du calme, c'est moi. Juste il boit, quoi, un peu de temps en temps. Et donc voilà, il est vite dépassé par ses propres failles, ses propres fissures, sa propre fragilité. Voilà un très beau mot, la fragilité. Et voilà, nos pères ne s'autorisaient pas à être fragiles. Ils n'en avaient pas le droit, ils n'en avaient pas le loisir, ils n'en avaient pas le temps, ils n'en avaient pas envie. Voilà. Moi, je la revendique, cette fragilité, mais c'est, là aussi, c'est de l'embourgeoisement, quoi.
En tout cas, c'est un beau personnage, le personnage du père dans La tête sous l'eau. Alors, une dernière question, parce que j'aimerais garder quelques minutes, si vous voulez, vous, à votre tour, poser des questions aux auteurs qui sont là. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait presque de mission, entre guillemets, de volonté en tous les cas, de témoigner de cette France qui est ignorée, qui est faite d'ailleurs rarement dans les romans, etc., et qui est pourtant majoritaire. C'est une France dont on parle au moment des élections, par exemple, si on voit que l'abstention va monter, les sondages donnent l'abstention qui monte ou le Front National qui monte. Alors là, d'un seul coup, on va dans les journaux fleurir des papiers sur la France périphérique. Ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous revendiquez aussi l'idée d'écrire des livres politiques ?
Alors oui, moi à fond. Alors, mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'à chaque fois que je vais dans des causeries comme ça, des tables rondes, dès qu'on dit les mots social ou politique, les gens prennent peur, et disent, oh là là, ça va être chiant. Et en fait, il faudrait se mettre d'accord sur ce que c'est des livres, ce que c'est le social, ce que c'est le politique. Quand on dit social, c'est pas la CAF, quand on dit politique, c'est pas le PS, c'est d'autres choses qui se jouent, quoi.
Le quoi ? Le P ?
C'est un truc...
Ah oui.
Mais
il y en a plus. Il y a longtemps.
Oui, c'est un truc qui concerne les pères.
Voilà. Et, ce sont des livres politiques parce que ils essayent de montrer comment les gens font pour vivre ensemble alors que c'est pas possible et que c'est indispensable. Et en cela, c'est politique. C'est-à-dire que dans les familles, il y a des... Le corps social, du micro au macro, de la famille à la nation, s'est parcouru de tensions, d'intérêts antagonistes, de luttes, de violences. Et malgré ça, il faut quand même qu'on vive côte à côte et qu'on fasse quelque chose tous ensemble, plus ou moins. Et le bouquin, il est politique parce qu'il raconte ça. Comment des communautés, elles sont côte à côte, elles sont a priori imperméables, et comment malgré ça, ça circule, ça tourne, il se passe des choses, et comment les gens s'en sortent quoi, de cette gageure. C'est politique de ce point de vue-là.
Olivier ?
Alors moi, du coup, pour l'instant, j'écris plus de livres que Nicolas, donc il y a des livres qui ne le sont pas. Clairement. Mais si je fais un panoramique un peu lointain sur l'ensemble de ma production, c'est impossible de répondre non, parce que je sais très bien que À l'abri de rien et son prolongement au cinéma, Welcome, sont des travaux éminemment politiques. Les lisières et peines perdues forment une sorte de diptyque qui était aussi politique. Ce qui est sûr, c'est que moi, je me suis toujours dit qu'on ne pouvait pas construire un personnage, déjà, puisque c'est quand même le personnage qui est la source de tout, hein, à mon avis, dans le roman, en considérant qu'il est une pure entité, une boule de sentiments et une entité psychanalytique éthérée, pure. Ce n'est qu'une partie. Nous sommes tous des êtres sociaux, je dirais même des êtres sociologiques, traversés par la manière dont les rapports de classe, les structures sociales nous modifient, nous obstruent, nous permettent, nous délivrent ou nous engoncent. Et ça explique une bonne partie de nos comportements, comme tu le disais, de nos empêchements, de nos capacités, etc. Et à partir du moment... et puis voilà, l'autre chose aussi, c'est que je ne voyais pas comment on pouvait écrire du roman sans convoquer à un moment donné ce qui occupe autant de temps et l'esprit de chacun. Le travail, comment on gagne sa vie, l'aliénation ou non, les structures de domination, les rapports de pouvoir dans l'entreprise, ou le chômage, enfin tout ce que ça crée et d'emblée, dès qu'on intègre ça dans la construction d'un personnage ou d'un roman, on est nécessairement... dans le politique, ça ne veut pas dire avoir un message politique à faire passer comme une démonstration, en considérant que les personnages et le roman n'est que le prétexte à décliner un discours. Ça veut dire, si on veut rendre compte du monde à travers les romans, rendre compte de la manière dont chacun de nous est traversé par le politique et par le sociologique. Voilà. Et donc, oui, on ne peut pas enlever le mot politique de la plupart de mes travaux. Et évidemment, pour Nicolas, c'est très patent dans son livre.
Alors, est-ce que vous souhaitez poser des questions, là, quelques minutes ? Oui, on va vous passer tout de suite un micro. Alors, ce qu'on va faire, madame, on va s'amuser. On va prendre une question là, puis après une question là, puis après une question là. Une en haut, une en bas. C'est monsieur là-haut, vous voyez en haut à gauche, voilà. Bonjour monsieur.
Bonsoir. Il est question dans vos deux romans de la défaillance des pères. Les pères, ce sont eux qui, en principe, transmettent un patronyme. Et là, nos deux auteurs ont pris comme nom de plume des prénoms. Olivier, Adam, Nicolas, Mathieu, hasard ou nécessité?
Moi, comme Guy Georges, c'est mon vrai nom, en fait.
C'est un signe. Je rends le micro.
Et Olivier Adam.
Bah moi, comme Édouard Philippe. Presque aussi dangereux que Guy Georges. C'est aussi mon vrai nom. Donc.
Quelqu'un d'autre veut le micro poser une question? Oui, madame, on va vous passer le micro juste là. Voilà. Bonsoir, madame.
Bonsoir. Bonsoir, Olivier Adam. J'ai lu votre livre et je l'ai trouvé très violent, en fait, même si l'écriture reste très, très sobre. Et je voulais savoir si vous passiez un message aux adolescents, parce que je suis psychologue, je travaille avec des adolescents. Je peux vous dire que je ne mettrai pas ce livre entre leurs mains.
Non, je passe aucun message aux adolescents. Je pense que si on veut écrire quelque chose qui ressemble de près ou de loin à la littérature qui aille dans des collections dites adolescentes, il ne faut pas se soucier de la destination ni du message. Sinon, on écrit, on écrit un manuel pédagogique ou je ne sais pas quoi. D'ailleurs, je ne sais même pas ce qu'on écrit. On écrit. Et puis, il y en a qui écrivent du feel good. Moi, j'écris du feel bad. Voilà. Et j'en suis très content. Et par ailleurs, quand j'étais ado, moi, je voulais surtout pas lire du feel good. C'est-à-dire tous les livres qui m'incitaient à voir la vie en rose ou à la résilience ou à tout ça, ça me sortait par les yeux. Donc j'écris les livres que j'aurais aimé lire à cet âge-là, quand j'avais cet âge-là, et après qui même me suivent. Voilà. Et je me dis que j'étais pas non plus si bizarre et si particulier. Donc je me sens aucune responsabilité particulière. À 15 ans, vous savez, ma fille, elle a 16 ans, elle a lu Absolute Darling de Gabriel Talent l'an dernier, et des choses comme ça. Je peux vous dire que la tête sous l'eau, c'est vraiment, mais c'est mignon, hein. C'est les bisounours, hein, à côté.
C'est vrai qu'Absolute Darling...
Et d'autres livres, hein, elle lit Christos Tolkas ou des choses d'accord. Comme ça. Donc voilà, et à 15 ans, moi, je lisais des trucs bien plus... Enfin, 100 000 fois plus hard que ça. D'ailleurs, je pense qu'à 15 ans, je l'aurais pas lu, ce livre-là. Je l'aurais dit, oh là là, ça, c'est...
C'est pour les petits,
quoi.
Madame, je vous en prie.
Merci à tous les trois. Vous parlez souvent des pères. Et moi, ce qui me vient à l'esprit et qui me manque, est les mères. Parce que les mères, elles sont absentes de vos livres. Et elles sont pourtant toujours présentes.
Elles sont pas absentes. Non, elles ne sont pas absentes. Hein. Dans le livre, peut-être, Nicolas, vous pourriez... Parce qu'au contraire, le personnage de la mère, il est très important dans le livre. Et d'une certaine manière... Elle s'en sort mieux que le père. Enfin, moi, c'est ce qui m'a semblé.
Oui, il y a une mère qui est très présente à tel point que je me demande si elle ne sera pas l'objet d'un troisième bouquin. Non. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est d'écrire un monde. Donc, j'ai essayé de faire vivre tout ça. Donc, on a parlé... Michel Abesca a pris des angles pour traiter ces histoires, mais on essaye de restituer des mondes et c'est plus large que ça, quoi. Donc oui, moi, il y a un personnage de mère qui m'a beaucoup beaucoup occupé et dont je suis pas tout à fait sorti. Après, j'ai pas envie de faire une généralité sur les mères s'en sortent mieux, les pères non. Là, c'est des personnages. Ils ont.
Oui, là, je parlais du personnage.
Ouais, vraiment. Et ils ont leur destin et leur parcours. Ce qui est très, très étonnant dans ce livre, c'est qu'au début, j'avais une idée de ce que je voulais faire. Et puis, une fois que les personnages ont pris chair, eh ben, je les ai plus suivis que devancés, en fait. Mmh. Et voilà, donc il y a le personnage de mère. Oui.
Voilà. Oui, c'est vrai que c'est un peu de ma faute parce que je suis parti sur l'axe des pères, mais comme je vous l'ai dit, j'avais prévu 2854 questions, j'ai été obligé d'en louper certaines, donc j'ai focalisé sur certains points. Évidemment, les livres sont beaucoup plus riches que ce qu'on peut dire en une heure. Quelqu'un d'autre souhaite le micro ? Personne ? Non. Alors, alors qu'est-ce
que... Madame,
là-haut ? Il y a quelqu'un là-haut ?
Non, on dit qu'il faut lire les livres.
Il faut lire les livres. Eh bien, voilà, c'est une excellente idée. Alors, par exemple, vous pourriez lire le livre d'Olivier Adam, La tête sous l'eau, qui vient de paraître chez Robert Laffont. Je vous conseille, je ne sais pas s'il est là, parce qu'évidemment, on peut se le procurer en poche, de lire Les Lisières aussi par rapport au sujet d'aujourd'hui, qui était un des romans d'Olivier que je préfère. Et puis, Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, qui vient de paraître. Chez Actes Sud. Non, Nicolas est toujours là, heureusement. Vous allez pouvoir les retrouver tous les deux, si vous voulez, ici en colloque singulier. En tous les cas, je vous remercie tous les deux. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite la meilleure des soirées possibles.
Merci à vous.